Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts.
On est perçu aujourd'hui Cligny comme une boîte premium. Et en fait, je trouve ça assez hallucinant parce qu'on paye les gens au 30 du mois, on paye les heures supplémentaires et les heures complémentaires, on les monitore, la tech vient nous aider à piloter ce genre de choses. Ce qu'on fait, c'est juste essayer de faire les choses correctement sur des sujets que je trouve mais être le béaba.
Aujourd'hui, je cause avec Alexandre Belliti, le fondateur de Cligny, une start-up dans le nettoyage industriel qui fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 450 collaborateurs. Je dois vous avouer que j'ai particulièrement apprécié cette interview parce qu'Alexandre fait partie de ces entrepreneurs aguerris qui racontent tout sans tabou et avec énormément de recul et d'humilité. Vous allez voir, on parle de plein de choses. La tech au service de l'impact, comment remporter des marchés, comment communiquer et porter ses messages, notamment grâce à LinkedIn. On parle de culture d'entreprise et de recrutement aligné avec les valeurs ou encore de l'intérêt de rejoindre le mouvement Impact France. Après cet épisode, je suis définitivement convaincue que la présence de Cligny sur le marché de la propreté est essentielle pour faire bouger les lignes. Parce qu'au-delà du fait que l'entreprise fait son bilan carbone depuis 3 ans, sa grande différence réside surtout dans sa réelle considération des hommes et des femmes qu'elle emploie pour faire le ménage dans les entreprises. Comment ça se traduit ? Par une lutte quotidienne contre leur invisibilisation, des contrats en CDI, de la formation, du management bienveillant. Bref, une toute autre approche que ce qui se fait traditionnellement sur ce secteur. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange. Salut Alexandre.
Salut Mélodie.
Super contente de te recevoir sur Business Positif.
Merci.
On réattaque les épisodes avec toi et ça faisait un moment qu'on avait échangé sur LinkedIn pour prévoir un enregistrement et puis les mois, même les années en réalité ont passé et donc je suis trop contente qu'on puisse faire ça. Je crois que c'est 2 ou 3 ans après le premier échange pour parler de Cligny. Et avant de parler justement et de nous présenter Cligny, je veux bien que tu me racontes une anecdote qui illustre pourquoi tu te lèves le matin en tant qu'entrepreneur.
Écoute, merci de me recevoir. Effectivement, il y a un petit peu de temps qui a passé depuis notre premier échange. Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? C'est une excellente question. J'ai en tête un truc qui me vient là, d'un message que j'ai reçu il y a quelques mois d'un entrepreneur que je ne connaissais pas, mais qui visiblement m'avait vu un peu. Donc je suis assez présent sur LinkedIn pour parler de la mission de l'entreprise et qui a voulu challenger la mission auprès d'une de nos cleaneuses. Donc il a vu passer une de nos cleaneuses dans la rue. Il est allé la voir en lui demandant mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'il racontait. Donc il était curieux de connaître son ressenti. Et il a challengé le message de la boîte et il s'avère que la cleaneuse lui a fait un retour hyper positif en lui disant qu'elle était très heureuse de bosser chez nous, que nos clients la respectait, qu'elle avait de la reconnaissance attachée à son travail. Et le gars m'a envoyé un message du coup en me disant qu'il avait trouvé ça super chouette et qu'il voulait m'en faire part. Donc un petit bravo en ligne d'un entrepreneur que je ne connaissais pas, que d'ailleurs j'ai rencontré ensuite et j'ai trouvé ça super sympa. C'est le genre de truc qui booste bien. Ah ouais. Je me souviens avoir screenshoté son message et l'avoir envoyé à toute la boîte parce que c'est quand même très cool comme genre de retour.
Trop bien. Et on voit bien pourquoi on se lève le lendemain directement. Génial. Est-ce que tu veux bien, en quelques phrases, me raconter Cligny, me dire c'est quoi un peu le point de départ ? Qu'est-ce que fait cette entreprise concrètement ?
Oui. Alors, point de départ 2012, 1er février 2012 exactement. Je sortais d'école de commerce après un stage en contrôle de gestion où je m'étais un peu emmerdé. Donc, j'avais décidé que je ne ferais pas ça. Je voulais être entrepreneur parce que j'ai la chance d'avoir une famille avec... papa, maman, grands-parents, oncles et tantes qui ont tous monté leur boîte. Donc pas d'appréhension particulière sur l'angle entrepreneuriat et du soutien familial, ce qui est non négligeable. Et du coup, la question s'est posée de monter une boîte tech, qui était un tout petit peu en vogue à l'époque, avec des potes qui montaient des boîtes tech, qui à l'époque m'ont fait découvrir le truc. C'était très excitant, mais j'avais une part d'inconnu qui me faisait vachement peur, notamment gérer des gens en tech qui font des choses que je ne comprends pas, ce qui est toujours un sujet. et monter une boîte beaucoup plus terre à terre avec un modèle que je connais. Il s'avère que j'ai un oncle qui a une boîte de propreté depuis 35 ans, qui a accepté de me former. Donc, au départ, j'avais cet embranchement-là. Est-ce que je rentre dans la tech sur un truc hyper excitant, mais que je maîtrise pas du tout et qui est un peu anxiogène? Ou est-ce que je vais faire un truc que je connais bien? Et j'ai choisi le truc que je connais bien. Donc, je suis allé chez mon oncle. Toute ma famille bossait dans l'immobilier. Lui, il avait une boîte de propreté. Il m'a donné les ficelles et vraiment filé les clés. Et c'était aussi un gros, gros, gros avantage de pouvoir travailler avec lui chez lui et avoir une vision globale.
Ouais.
J'ai fait le boulot sur le terrain. Je l'ai accompagné sur la gestion de la boîte. Enfin, j'ai vraiment connu. J'ai eu un fast pass vers la gestion d'une entreprise de propreté. Et ensuite, avec son aval, tu vois, il y a 15 000 boîtes de propreté. Donc, j'ai essayé de m'associer avec lui. Il m'a dit, non, mais monte ta boîte, prends ton envol. Et donc, avec
génial. Vraiment soutien familial jusqu'au bout, quoi.
Ouais, ça, c'était vraiment c'est hyper, hyper important. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé.
Et qu'est-ce qu'il avait? Parce que tu vas le dire juste maintenant. C'est quoi la différence concrètement de Clini et pourquoi on parle d'une entreprise à impact quand on parle de Clini? C'était quoi son regard justement sur le fait de vouloir faire les choses autrement sur son secteur? Il s'est senti jugé ou il s'est senti au contraire, c'est bien les jeunes, allez-y, transformez-nous?
Beaucoup plus cette deuxième version. Jugé en aucun cas. Il y a une boutique qui tournait bien sur des standards assez classiques du secteur. Mon oncle fait super bien les choses sur le plan humain. La boîte a une taille intéressante. Il en vit bien. Tu vois, et j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui ont à peu près des boîtes de ce type-là avec des standards assez classiques et à des tailles de boîte où l'humain est encore très prégnant de par la personnalité des entrepreneurs. Moi, j'avais tout de suite l'envie de faire un truc un peu plus gros, de scaler la boîte, j'avais 25 ans, méconnaissance totale du secteur, de l'entrepreneuriat, beaucoup d'étoiles dans les yeux. Donc,
tech aussi, le fantasme de la tech, comme tu dis, qui montaient des trucs, des fonds.
T'as toute l'énergie de l'inconscience et de l'innocence des débuts, tu vois, donc tu te vois très gros. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, fais-le. Mais en revanche, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. J'ai mon rythme, j'ai ce qu'il me faut. En revanche, voir ce que ça pouvait être de faire changer les lignes du secteur, c'était avec beaucoup de bienveillance qui m'a soutenu dans le fait de le faire, tout comme mes parents, mes grands-parents et autres. Et pour être franc, au départ, je savais pas exactement ce que ça voulait dire, tu vois. Le premier angle de disruption que j'avais vu, c'était la tech. Parce que je parlais que de ça avec mes potes, parce que j'avais 25 ans, parce que t'as des boîtes qui débarquaient des US, qui venaient commencer à apporter un edge technologique. Et l'idée, c'était de faire avancer les choses. Et vraiment, les softwares que je voyais à l'époque dans mon secteur, c'était du Windows 93, 95, ouais. C'était l'enfer. C'était moche, pas du tout. Et donc le premier sujet, c'était ça. Et puis après, petit à petit, c'est construit le fait que, en fait, intrinsèquement, parce que j'étais formé chez mon oncle, parce que ma grand-mère était femme de ménage, parce que je me suis rendu compte qu'on avait, que dans la boîte que j'avais, et que la culture de la boîte était très tournée vers l'humain. Et après, c'est en inspectant et en comprenant le secteur que j'ai vu que c'était pas un standard global, ça. Que du coup, l'enjeu social était colossal dans le secteur de la propreté. Et c'est devenu la mission de la boîte de faire en sorte de valoriser les agents d'entretien.
Parce que tu parlais, on parle de 600 000 collaborateurs à chaque fois, tu donnes ce chiffre-là?
Exactement, 600 000 collaborateurs en B2B, donc dans mes concurrents directs, enfin dans notre corporation du nettoyage industriel, donc des gens qui travaillent avec d'autres entreprises. Et si tu extrapoles au B2C, donc la femme de ménage qui vient chez toi pour t'aider sur les tâches ménagères, c'est 2 millions de collaborateurs qui ont la propreté dans leur fiche de poste. Et donc, c'est une des corporations les plus importantes en France et j'imagine dans le monde. Ça doit être à peu près les mêmes proportions, et c'est la corporation la plus précaire.
Ouais. Donc l'impact social est énorme quand on monte une boîte dans la propreté.
Colossal.
Et du coup, aujourd'hui, justement, chiffre d'affaires de Clini, c'est 9 millions d'euros, et il y a 25 personnes au siège, et 450, ce qu'on disait juste avant quand on a préparé cet échange, 450 collaborateurs terrain, et tu disais que ça faisait à peu près 200 équivalents temps plein.
Exactement.
Donc, ce sont des personnes que vous avez envie d'accompagner, puisque c'est vraiment la mission de l'entreprise, c'est aussi d'accompagner, former, faire en sorte que ces personnes soient dans les meilleures conditions possibles.
C'est tout à fait ça. Ouais, les stats, c'est une proportion non négligeable de personnes qui ne sont pas full-time chez nous, donc qui sont multi-employeurs, qui ont d'autres boulots, d'autres jobs à côté. Donc, une part de temps partiel non négligeable, c'est comme ça qu'est construit le secteur. On essaie de pouvoir du temps plein. Ça offre aussi de la flexibilité, donc c'est aussi une manière de fonctionner qui a des avantages et des inconvénients, évidemment. Mais en tout cas, on est quasiment à 100% de CDI. On utilise un petit peu le CDD parce que ça offre de la flexibilité, mais on essaie d'éviter tout ce qui est contrat précaire. Et nos CDD se convertissent en CDI quasi systématiquement. L'enjeu social, pour y revenir, il est fondamental. Dans la boîte de propreté, la croissance a une contrainte qui d'ailleurs n'est pas une contrainte, qui est un corollaire plutôt, qui est d'avoir pas mal de people. Donc, tu vois, on ne fait entre guillemets que 9 millions de chiffre d'affaires et on a 450 collaborateurs. Donc, l'humain est prépondérant dans ce secteur. Il n'y a pas d'alternative à gérer le sujet. Après, comment tu le gères, ça, c'est un choix de boîte et de culture. Mais historiquement, le secteur n'est pas très ancré sur l'humain. C'est plutôt un secteur qui a historiquement invisibilisé les personnes, organisé les plannings, les tournées et le pricing des contrats pour faire de la marge, souvent au détriment des conditions de vie des collaborateurs. C'est pas fait sciemment, c'est pas fait pour dégrader les conditions de vie, mais c'est fait pour générer de la compétitivité dans un marché qui s'excuse un peu d'exister. La propreté est toujours perçue comme une commodité ou comme une contrainte. Tu vois, t'as pas d'alternative à nettoyer ton appart ou à nettoyer tes bureaux. Tu le fais faire par des boîtes en externalisé, mais ton objectif, c'est de payer le moins possible parce que c'est pas très valorisé.
Oui. Et puis que c'est aussi un peu, quand tu parles de ce nombre de personnes, il y a peut-être quelque chose aussi d'un peu déshumanisé, dans le sens où on les connaît pas forcément puisqu'ils sont sur le terrain, ils sont interchangeables tant qu'ils font le ménage, donc en plus ils sont invisibilisés. Du coup, tout de suite, enfin, c'est ce qu'on disait quand on échangeait autour de pourquoi s'intéresser à ce sujet, bah parce que l'impact social, comme tu le disais, il est énorme. Enfin, le potentiel d'impact est énorme, et parce que culturellement, le secteur est très très loin. Il est vraiment, il jouerait, je caricature exprès, mais il jouerait avec des objets, ce serait pareil en fait. C'est aussi des lignes dans des tableaux pour optimiser. Tu parlais de ce terme d'optimisation qui te sortait un peu des yeux, parce que justement, ça vient complètement à l'encontre aussi d'une dimension humaine qu'on est obligé de prendre en compte quand on travaille avec l'humain, quoi.
Ouais, bien sûr. Après, le secteur s'est construit comme ça, qui de l'œuf ou de la poule, après, qui est entre guillemets responsable, parce que aujourd'hui, t'es sur un secteur où l'enjeu social est colossal, parce que les standards de base sont des standards de précarité, parce que effectivement, t'as le terme d'optimisation qui, sur des décennies, est un terme que moi je trouve hyper insidieux. C'est-à-dire que le ménage, c'est des gens qui le font, tu vois. La propreté, elle est faite par des people. Alors effectivement, si t'as du meilleur matériel, de meilleurs produits et que t'es formé, tu peux nettoyer, il y a de vrais leviers, tu peux nettoyer plus efficacement, il y a de vrais leviers d'optimisation à plein d'endroits. Donc il y a une partie technique dans le métier et il y a une partie matérielle et produit qui est non négligeable. Mais ça reste quand même limité par la capacité des gens à faire les choses, tu vois.
C'est clair.
Et donc il y a un moment où l'optimisation, elle ne te permet pas de nettoyer 10 fois plus vite, tu vois. Elle te permet de nettoyer, on va dire 30, 40, 50%, peut-être même 100% plus vite. Effectivement, quelqu'un de très très bien formé qui bosse depuis 10 ans à la propreté, peut-être qu'elle nettoie 2 à 3 fois plus rapidement et plus efficacement qu'une personne lambda qui n'y est pas formée. Mais tout ça a une limite, et la limite, elle est humaine, et personne n'est capable de nettoyer 3000 m² en faisant son footing les jours, tous les matins, en étant payé au SMIC.
Ça et n'existe. En souriant.
Et en souriant. Donc fatalement, l'enjeu social à ce niveau-là, ça reste un métier qui est physique, ça reste un métier qui est... Et les horaires décalés aussi fait qu'effectivement, nous, on se bat beaucoup pour le travail en journée, pour que les agents d'entretien travaillent en même temps que les collaborateurs du bureau. Alors effectivement, systématiquement, tu as une objection, c'était oui, mais l'aspirateur, ça fait du bruit. Oui, ben donc du coup, on ne passe pas l'aspirateur à ce moment-là. On le passe plutôt le matin, tu vois, entre 7 et 9, là où il n'y a pas encore grand monde au bureau, ou le soir un peu plus tard. Mais tu vois, c'est un truc qui n'est pas très compliqué à tacler, quoi. C'est pas rocket science de pas emmerder les gens avec un aspirateur quand ils sont en call. En revanche, de travailler, de nettoyer des bureaux, de nettoyer des sanitaires, de nettoyer des espaces de vie dans les bureaux en même temps que les gens, bah, ça permet de rencontrer déjà les collaborateurs. Donc du coup, tu t'insères mieux dans la boîte, les gens te voient, ça offre de la flexibilité. Donc, tu peux te demander plutôt cet endroit plutôt qu'un autre. Donc ça t'applique pas un cahier des charges de manière bête et méchante, mais tu te sens plus agile, tu te sens plus à l'écoute du client.
Ça crée le dialogue aussi, mine de rien.
Ça crée le dialogue, tu connais les personnes pour lesquelles tu bosses, donc ça donne du sens. Les personnes te connaissent, donc elles y réfléchissent 2 fois avant de faire n'importe quoi quand elles sont au bureau. Tu vois, ça crée un lien, ça n'a que des externalités positives, statistiques, hein, c'est plus efficace, plus il y a les enjeux de sécurité sont taclés aussi, le lien social, la rétention des personnes, les questions liées au sens et à l'engagement. Mais c'est quand même un truc qui reste difficile à vendre. C'est très paradoxal, mais tu vois, tout ce que je te dis là, je l'ai répété 150 fois en appel d'offres, et il y a quand même des gens qui encore aujourd'hui te disent non mais nous c'est tôt le matin ou tard le soir, mais on ne veut pas les croiser, tu vois.
Et on
veut pas les croiser, ça me hérisse le poil.
Bah, en même temps, ça montre pourquoi Clini existe, c'est juste pour te le rappeler, c'est un cadeau. Ah oui, c'est vrai.
Ça participe de la mission de la boîte, ouais. Tant que le secteur n'est pas à 100% ancré là-dedans, après tu vois, c'est quand même des choses qui sont portées de plus en plus, qu'on entend de plus en plus. La fédération pousse beaucoup sur le sujet du travail en journée et tout. Il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là. De plus en plus en appel d'offres, on voit que c'est valorisé. Mais le chemin est encore super long parce que la dette, elle est énorme. Le marché fait 17 milliards et c'est des sujets qui commencent à être taclés depuis le Covid, tu vois. Pour le coup,
et en plus, c'est des sujets qui sont peut-être moins ce qu'on disait aussi avant. Aujourd'hui, quand on parle d'impact, c'est quand même l'environnement qui prend une grande place. Déjà, l'impact social prend moins de place, on va dire, dans la tête des gens et même sur la propreté. Tu vois, là, il y a un problème, en fait, et il y a un problème surtout social qui est la précarité de ces personnes qui sont très, très nombreuses et invisibilisées dans la société. Donc déjà, du fait qu'elles sont invisibilisées, l'enjeu est moindre pour plein de gens, en fait, qui vont dire « Oh, bon ». Et en plus, comme tu disais, vous, ce que vous faites, c'est d'essayer de transformer, de changer le paradigme pour que les bases de ce secteur, c'est peut-être un peu le fantasme ou l'utopie, ou voilà, vous voulez tendre, les bases deviennent des bases, en fait, qui sont peut-être basiques pour d'autres secteurs. Et donc, du coup, tu peux aussi, je veux bien que tu nous dises peut-être un mot là-dessus, ouais. Parce que votre solution, elle est à la fois tech et à la fois donc, humaine, avec une prise en compte du social, avec donc, le fait de CDIser, de pousser la journée, de former les collaborateurs. Il y a vraiment toute cette prise en compte. Et pourtant, il y a plein de gens qui vont dire « bah oui, normal, quoi ». Alors que non, c'est pas normal dans ce secteur encore, malheureusement.
Ouais, non, mais sûr, c'est pas normal. Et effectivement, quand tu parles des... On est perçu aujourd'hui, Clini, comme une boîte premium, tu vois. Et en fait, je trouve ça assez hallucinant parce que ce qu'on fait, c'est juste essayer de faire les choses correctement sur des sujets que je trouve mais être le béaba, tu vois. On est pas en train d'essayer de révolutionner. On paye les gens au 30 du mois... On paye les heures supplémentaires et heures complémentaires, on les monitore, la tech vient nous aider à piloter ce genre de choses qui est effectivement sur des... Tu vois, nous, on a 450 collaborateurs, mais quand tu fais 10 000, 15 000, 20 000 et que tu n'as pas les outils techno d'affectation, de gestion des chiffres et tout, ce n'est pas facile à gérer. Donc, tu vois, encore une fois, la techno peut aider à aller dans le sens de l'ESG. C'est vrai que tu as raison, le social est souvent moins mis en avant que l'environnemental dans les discours ESG, ce que je trouve assez rigolo parce qu'au final... On en parlait un peu tout à l'heure en off. L'environnement, c'est au final aujourd'hui un prisme, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, un prisme qui traite de l'humain. Parce que si demain on prend 5 degrés dans la tronche, ceux qui vont en souffrir, c'est nous. La planète en elle-même, elle va peut-être mettre quelques millénaires à se rebooter, mais elle va pas en souffrir autre mesure, tu vois. Elle passera rapidement à autre chose. Donc au final, j'estime que l'humain, en tout cas la préservation de l'humain est le sujet fondamental, donc l'environnement traite de ce sujet-là également, et du coup délaisser le social au privilège de l'environnement, c'est un petit paradoxe, quoi. Mais on a des leviers aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie de certaines personnes qui en ont besoin. Pourquoi ne pas gérer ça en parallèle d'un projet plus long terme qui est la préservation de notre planète, ce qui est aussi un sujet fondamental, hein.
Oui. Mais tu vois, et puis ça rejoint même le monde de l'entreprise, parce qu'au final il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas d'humain. Une entreprise existe à partir du moment où il y a au moins une personne dedans, sinon Donc du coup, ça rejoint, tous ces sujets sont des enjeux humains au final, ça rejoint ce que tu dis, quoi.
Exactement. Donc pour moi, le social, c'est fondamental. On a des leviers pour agir à l'instant présent sur des personnes qui ont besoin d'eux. Le pourquoi on n'y arrive pas aussi vite, pourquoi alors que tout paraît limpide, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est des choses qui sont assez frustrantes, assez anthropologiquement complexes, philosophiquement complexes, auxquelles je lis beaucoup, j'essaie de comprendre. Et de balayer devant ma porte aussi, parce que tu vois, c'est facile d'être objecteur de conscience et de promouvoir des trucs de bisounours, mais au final, tu te rends compte que dans tes comportements quotidiens, t'es pas toujours exemplaire.
Donc voilà,
c'est un trajet de vie, je trouve ça hyper intéressant. Et clairement, notre mission, c'est si un jour, tu vois, on a des confrères qui font le job correctement, enfin, en tout cas, ce que moi, j'estime être correctement. On a tout un panel de concurrents, confrères qui font encore les choses comme il y a 50 ans. Et je pense qu'il y a un step à passer là-dedans. Je trouve que le chemin est passionnant et j'ai bon espoir que ça shift, tu vois. Qu'on soit une petite goutte d'eau avec d'autres, hein, parce que vraiment, Clini n'est pas la seule boîte à bien faire les choses.
Mais c'était intéressant aussi en termes de positionnement et d'entreprise et comment faire pour faire grandir l'entreprise, qui est aussi un des sujets, tu vois, c'est business positif, le nom de ce podcast, quoi. C'est-à-dire, on assume que c'est du business aussi et c'est très bien. Mais c'est que la singularité de Clini, c'est vraiment ce combo. C'est vraiment le combo. On met la tech au service du secteur et on prend en compte l'impact social et la tech vient servir à la fois le business, la rentabilité, etc. et à la fois le social, parce que qui dit meilleur pilotage des agendas, etc., dit aussi que les gens, potentiellement les collaborateurs, sont plus, enfin, plus de bien-être, en tout cas, sont plus peut-être rassurés par leurs agendas, la manière de maîtriser les imprévus, etc. Les clients aussi. Donc, au final, c'est aussi ça qui est recherché dans ce genre, je pense, de mission, quoi.
Ah, exactement. Et ces missions, il faut se rappeler que c'est des work in progress, tu vois. Parce que souvent, quand je discute avec des gens et avec des boîtes de l'ESS, il y a une injonction à la perfection instantanée. C'est soit tu fais les choses mal, soit tu fais les choses parfaitement bien. Et en fait, c'est un sacré chemin, tu vois. Donc, c'est évidemment que chez nous, il y a des choses qui tournent pas encore bien. La roadmap sur les sujets sociaux et environnementaux, elle est encore très longue. Il y a des projets en cours très structurants. Et c'est vrai que la tech aujourd'hui chez nous, donc l'enjeu social est ultra prépondérant. On n'est pas mauvais, mais on a encore plein de leviers d'amélioration. Et la tech, elle est beaucoup au service de sujets très quotidiens. Tu vois, c'est la gestion de la paye, c'est la gestion des affectations, affecter les personnes à proximité de leur lieu de vie, payer les heures supplémentaires, complémentaires et avoir une traçabilité de ces sujets-là. Tu vois, pas être dans l'interprétatif de ah, mais non, mais lui, il n'était pas là-bas, je l'ai pas. Tu vois, c'est. Quand tu as une culture de l'oral, tu as moins de traçabilité, donc tu as une propension à faire des erreurs qui est beaucoup plus forte. Tu vois. Donc la tech vient aider à ça, juste objectiver la relation, voir ce qui se passe réellement et essayer d'être au plus proche du réel sur des sujets qui sont très très quotidiens dans la gestion des hommes et des heures.
Oui, c'est clair. Et je veux bien, on a parlé d'une petite histoire, je trouve, qui représentait bien justement la transformation du secteur. C'est vraiment ce qui m'intéresse sur ce podcast, c'est comment en fait des entreprises de l'impact viennent disrupter, viennent innover sur un secteur et permettent de le transformer. Et c'est ça qu'on, a priori, on a envie quand même que ce monde se transforme un peu. Et je pense que les entreprises ont un grand rôle. Donc voilà encore une fois pourquoi ce podcast existe. Et du coup, tu m'as parlé d'une histoire que j'ai trouvée pas mal sur l'appel d'offres que vous avez remporté. Et avec ces 10 personnes que vous deviez récupérer, avec le client qui disait « Ah, je pense que ça va pas le faire », ils sont un petit peu démotivés, et puis vous avez eu envie de donner une chance.
Ouais, ça traite des sujets, tu vois, c'est une illustration assez pareille, quotidienne et concrète de l'impact de la culture d'une entreprise et des efforts qui sont donnés sur le sujet humain. Dans la propreté, donc dans le nettoyage industriel, t'as une contrainte qui s'appelle l'annexe 7, qui fait que quand tu remportes un contrat, tu as l'obligation, alors il y a quelques paramètres à respecter, mais de récupérer les équipes qui étaient en place chez ton concurrent. Donc ton concurrent te rétrocède les contrats de travail des personnes qui étaient affectées au site. Donc les personnes sont plutôt affectées au site qu'à une entreprise de propreté, pour être clair. Ouais. Et donc chez ce client-là, qui est un gros client, il y avait une équipe de 10 personnes en place, on a gagné le contrat, et le client à l'époque de nous dire, objectivement, les équipes, c'est pas au beau fixe, donc il va falloir faire des choses sur le plan social, et on s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser le temps, on va se laisser 3 mois pour reprendre le contrat, remettre un petit peu d'huile dans les rouages et voir comment ça se passe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec des choses simples, hein, c'est-à-dire du matériel, des produits, un niveau d'encadrement un petit peu supérieur, connaître qui est ton N+1, donc ton manager terrain, recréer du lien humain, organiser un petit déj avec les équipes du client, notamment on a fait un workshop, je me souviens à l'époque, c'était en 2018, sur le tri sélectif, tu vois, juste mettre un sens des trucs, les équipes repartent comme en 40, et 3 mois après, le client nous a dit, mais c'est pas possible, c'est les mêmes personnes, ils sont reboostés, tu vois, et vraiment, encore une fois, là, ça fait il y a un petit côté épiphanie, mais en vrai, il a été fait, c'est juste une chance.
Ouais.
C'est juste réexpliquer qui est quoi, remettre en place un encadrement structurant et beaucoup d'humains, tu vois.
Je te rejoins pas mal sur cette notion du bon sens, qu'au final, cette question de responsabilité, c'est vraiment pour beaucoup de revenir à du bon sens qu'on a peut-être un petit peu oublié en voulant grandir très vite. Je te rejoins complètement là-dessus. Je te propose qu'on passe aux questions autour de votre com. On parlait de ce sujet de la communication comme levier essentiel pour la croissance des entreprises, notamment des entreprises de l'impact. Comment être visible? Comment être compréhensible? On apporte quelque chose de nouveau. Comment on fait pour faire en sorte que les gens changent d'usage, changent de comportement? Comment on fait pour grandir et se pérenniser et transformer le secteur, inspirer les autres? C'est un sacré boulot, en vrai, quand on se lance en tant qu'entreprise de l'impact. Je sais pas d'ailleurs si t'en étais conscient à la base, mais il y a un enjeu énorme, ouais, d'accord, de vulgarisation.
Les avantages d'inconscience quand t'es entrepreneur.
Oui, c'est ça. Au fur et à mesure que tu découvres. Du coup, c'est quoi la place de la com chez Clini? Je veux bien que tu me dises, tu le vois comme une opportunité, comme une contrainte, comme un truc qu'il faut utiliser comme un outil. Tu me parlais du personal branding aussi.
Ouais, alors la com, j'ai un rapport assez intrigué au sujet. À une époque, on n'en faisait pas du tout. D'ailleurs, la boîte s'appelle toujours Imonet et au départ, j'avais fait le logo moi-même.
J'ai vu ça. Ah, ok.
Marketing était vraiment mis en, tu vois, on se dit on va faire le job et puis au global, on va s'appeler un truc en net comme 97% des boîtes de propreté.
Okay.
On fera la diff par notre travail. Et puis finalement, on s'est dit qu'on a, on a créé la marque Clini, qu'il y avait quand même un enjeu à avoir une communication un peu fraîche, un peu différenciante, se démarquer, mettre en avant nos valeurs, notre manière de fonctionner, tout ce qu'on a, tout ce dont on a parlé, tu vois, l'enjeu social, ouais, et techno, apporter un edge. Donc aujourd'hui, je suis conscient que se démarquer de la concurrence, c'est primordial. Créer une entité, une culture de boîte qui soit identifiable, c'est aussi fondamental. Un, d'un point de vue business pur, parce que tu veux gagner des contrats par rapport à des concurrents, et donc si tout le monde est bonnet blanc, blanc bonnet, bah tu sais pas comment différencier. Deux, en termes de marque employeur, c'est important de promouvoir ces valeurs pour fédérer et permettre de, et recruter des gens qui sont alignés avec. Donc ça nous a beaucoup beaucoup aidé. Ça nous a moins aidé à une époque où les valeurs étaient pas hyper claires. Tu vois, en 2000, quand j'étais plus un peu plus jeune, la tech était prépondérante sur l'enjeu social qu'on n'avait pas encore parfaitement conscientisé. Et du coup, on a vécu une période de la boîte où il y avait des désalignements entre les recrutements qui avaient été faits et les valeurs fondamentales de, enfin, les miennes et puis celles de mon associé de l'époque et du top management. Donc, c'est assez intéressant, la com. Ça permet de drainer. Il y a une partie de bullshit, pour être tout à fait clair, hein, qui m'a aidé, tu vois, qui permet de densifier en tant qu'entrepreneur, qui permet de tirer les sujets d'ego, de, et c'est important à certaines étapes, hein, de te sentir valorisé par une partie de com qui n'est pas forcément hyper ancrée dans le réel. Après, il faut faire vachement gaffe à ça, parce qu'il ne faut pas que ta réalité à toi devienne la réalité des réseaux sociaux.
Je veux bien que tu me parles de, concrètement, alors comment tu as utilisé LinkedIn, parce que c'est vraiment LinkedIn où tu as pu parler, faire un peu ton plaidoyer et ta visibilité sur Clini. Et puis aussi, est-ce qu'il y a une autre action, tu vois, dans l'impact que tu trouves a été intéressante pour faire connaître Clini en tant que marque? Est-ce que tu as utilisé l'écosystème de l'impact? Est-ce que tu as utilisé, je ne sais pas, du réseau, tu vois? Qu'est-ce qui a fait aussi que tu as pu développer, parce que c'est quand même une entreprise en croissance depuis quand même 10 ans, qui existe, qui se pérennise sur son marché, tu vois, donc c'est inspirant aussi pour d'autres boîtes. Est-ce que tu as des bons tips à donner?
Oui, alors bon, je sais pas, mais j'ai quelques tips. En tout cas, je peux parler de ce qu'on a fait, bien ou mal.
Ouais.
Donc clairement, construire la marque Clini et l'ancrer dans des valeurs identifiables, notamment sur les sujets ESG, c'était hyper important. Et on a pas mal tâtonné entre l'angle techno qu'on a beaucoup poussé à une époque et l'angle RSE qui était au final très prégnant. Et on se disait, mais tout le monde le voit bien. Et en fait, non, il faut vraiment le mettre en avant.
Ouais.
Il faut le pousser, ça devient une identité. Et du coup, choisir, c'est renoncer. Donc on a maintenant, la techno est au service de l'ESG, ce qui est fondamentalement vrai. Hein, mais tu vois, tu dois choisir ton levier de communication principal.
C'est
l'ESG. Ensuite, le personal branding me concernant, bah, à la base, j'étais pas méga fan du truc, parce que me mettre en avant personnellement, ça m'intéressait pas plus que ça. Au final, c'est nécessaire.
Ouais.
Ça te rend identifiable, ça permet de personnifier, donc, et puis de communiquer massivement sur les réseaux sociaux. Ça a été mis en place, on a amorcé ce procédé-là en 2017, et là, ça commence à être pas trop mal, même si c'est... Enfin oui, en tout cas, je sais que je suis identifié. Après, qu'est-ce qu'on en retire? C'est difficile à quantifier.
Ouais. D'ailleurs, tu dis « on ». Est-ce que c'est toi qui gères ton calendrier éditorial, etc.?
C'est la boîte.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, tu vois, et d'ailleurs, on est en train d'ouvrir le champ des possibles avec d'autres personnes qui communiquent en leur nom pour l'entreprise, pour pas que ce soit uniquement polarisé sur ma personne. Même si aujourd'hui, je prends beaucoup la parole sur plein de sujets. Et on, parce que, effectivement, j'ai eu plusieurs boîtes de com, et aujourd'hui, je bosse avec une boîte que je salue, qui s'appelle Le Crayon, qui fait un super boulot, qui nous permet d'être présents dans des médias, de communiquer. Donc ouais, on est plusieurs à bosser, je suis clairement pas seul à bosser sur le sujet. Et après, bah, pour se faire connaître, t'as aussi beaucoup de... T'as un peu, dans mon secteur, de par l'enjeu social fort et quelques... bloquant, en tout cas, moi j'ai décidé de rejoindre, et j'étais invité à rejoindre en tant qu'ambassadeur le mouvement Impact France,
ouais,
qui m'aide beaucoup aussi à déjà à bien comprendre les enjeux de l'ESS et de l'ESG, à me positionner, à discuter, à trouver des angles de discussion et de pénétration par l'ESG de mon secteur qui est un peu hermétique à la base. Enfin, tu vois, c'est hyper intéressant de voir comment dans d'autres secteurs fonctionnent sur ces sujets-là, de bien comprendre les enjeux. Je progresse sur le sujet ESG grâce au mouvement Impact aussi.
Ok, vraiment, super. Voilà. Et aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur la partie comme sur tous les sujets d'impact, il y a vraiment des gros enjeux de vulgarisation, sensibilisation, acculturation aux innovations qu'on amène. Donc, tu dis qu'en te mettant en réseau, en faisant partie d'un mouvement comme Impact France, ça te permet aussi d'entendre comment les autres traitent ces sujets de vulgarisation. Ça, vous pouvez échanger là-dessus.
Exactement. Et de rester ancré dans le réel. Parce que il y a un truc, c'est que par com, certains peuvent entendre bullshit, et moi aussi. Enfin, ça, d'ailleurs, ça a été le cas à une époque. Enfin, pas bullshit, mais on va dire être un peu dans l'anticipation de ce que tu vends.
Ouais.
Aujourd'hui, chez Cligny, on ancre ce qu'on fait et ce qu'on dit dans le réel. Tu vois, et c'est hyper important. Et le mouvement Impact France est un garde-fou là-dessus, parce que pour le coup, c'est vraiment pas un réseau de bullshitters. C'est pas, on n'est pas dans les levées de fonds, la vente de ce qu'on fera dans 4 ans. On est vraiment dans le concret. Et il y a une notion de garde-fou, et puis après de voir comment les autres pratiquent. Tu vois, il y a tout un range, il y a vraiment des boîtes de l'ESS pur, où le côté business est un tout petit peu mis en. Existe, mais pas du tout prépondérant. Moi, je viens plutôt du business qui s'ancre vraiment dans l'ESS, et c'est hyper intéressant de voir comment fonctionnent les gens d'un bout à l'autre du spectre, avec le niveau d'engagement qui est très, très, très ancré chez certaines personnes, tu vois.
Et d'ailleurs, tu parlais de feuille de route ou de garde-fou. C'est intéressant aussi parce que tu disais que tu es en cours de certification B Corp. Enfin, ouais. Cligny est en cours de certification B Corp, pas ta personne. Mais du coup, j'imagine que c'est ça aussi. Ça permet aussi d'avoir un garde-fou, d'avoir une feuille de route. Et derrière, quand on dit on s'engage, parce qu'on parle beaucoup de B Corp ou de ce genre de label comme d'un outil com, et c'est vrai, ça l'est, faut pas se leurrer, hein. Tu vas mettre Certified B Corp le jour où tu l'as, normalement ça t'apporte quand même une garantie, une visibilité qui est pas moindre, mais ça permet aussi dans le process une feuille de route qui t'assure que tu vas parler, que tu vas aller traiter à la fois de comment tu t'ancres sur ton territoire, de ta gouvernance, de ton lien au client, de l'humain, de l'environnement, etc. Je veux bien que tu en dises un mot sur l'intention derrière ça.
Ouais, alors, tu vois, c'est là où... moi, je suis assez sidéré de t'entendre de parler de B Corp avec des gens et de voir qu'effectivement, ils sont une forme d'exaspération de par l'enjeu de communication lié à B Corp.
Ouais.
Vos trucs, c'est de la com, vous êtes des boîtes... Sauf que B Corp, ça, c'est vraiment un label qui s'ancre dans le réel à des niveaux qui sont assez impressionnants.
C'est clair.
On a démarré le truc il y a 3 ans. On est en plein audit. Donc j'ai le bon espoir d'être certifié dans les semaines, dans les quelques mois qui viennent. Mais le chemin, il est extrêmement... Donc on s'est servi du BIA, qui est la trame, la nomenclature B Corp, pour progresser. On a commencé, on était beaucoup plus bas que ce qu'on estimait. Donc on pensait être une boîte très engagée en 2018. Finalement, on s'est confronté au BIA et on s'est dit, purée, on a un beau chemin à faire avant d'être B Corp. Là, on va l'être et clairement, ça se traduit par des prises d'action concrètes. Donc ouais, le jour où t'es B Corp, effectivement, tu communiques dessus parce que t'es super fier de l'être. Mais c'est comme quand tu fais un marathon, tu vois.
Oui, il y a tout un chemin et de l'entraînement derrière, en fait.
De finisher, mais n'empêche que tu l'as fait, quoi.
Ouais.
Donc en fait, il y a une assaise derrière, il y a des contraintes que tu t'imposes qui te rendent moins compétitif, qui prennent du temps, qui imposent de recruter des gens. Donc ça dit de toi quelque chose de très concret d'être B Corp. C'est pas juste du bullshit. C'est impossible de l'être. Il y a des labels qui sont bullshit, B Corp ne l'est pas.
Ouais. Je te rejoins complètement.
Tu peux pas juste allonger 50 000 balles et être B Corp. Ça n'existe pas.
Oui, ils peuvent te retoquer, ils te renvoient avec toute la bienveillance du monde, mais en vérification parce que tu as perdu les points et qu'il faut que tu y retournes. Et ça prendra 5 ans s'il faut que ça prenne 5 ans. Donc il y a quelque chose. C'est un peu. Il y a à la fois le côté à l'américaine qui peut des fois aussi un peu agacer. Parce qu'ils débarquent comme ça et on voit, il y a un peu quand même cette culture. Et en même temps, je te rejoins. Moi, je trouve ça intéressant parce que derrière, c'est un vrai process. Quand on voit tout le process de certification, hein, pour le connaître très bien, faut t'accrocher, quoi. Faut t'accrocher, pas lâcher, aller regarder chaque, apporter la preuve. Enfin, ouais, moi, je te rejoins complètement là-dessus. Écoute, on arrive sur les toutes dernières questions. Déjà, ton dernier mot sur tech et impact. Moi, je veux savoir, est-ce que tu crois au fait qu'on peut allier à la fois la tech et à la fois l'impact, et pour de vrai?
Ouais, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une question, je verrais même pas pourquoi les opposer de base.
Ouais.
Peut-être dans un prisme où la tech est conçue comme le dark side de la tech, c'est-à-dire tout ce qui permet de mieux de plus consommer, d'aller plus vite. Mais au final, dans le réel, je connais tellement de boîtes de tech ultra engagées qui mettent la tech au service de l'environnement, du social. Après, je gravite pas mal maintenant depuis quelques mois dans cet écosystème-là, mais j'oppose pas du tout les deux. Je vois la tech comme un outil, tout comme l'argent, tout comme les levées de fonds ou autre. Tu vois, c'est simplement un outil. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a une culture parfois qui associe la tech et les levées de fonds à quelque chose d'ultra business, ultra capitaliste et potentiellement délétère. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça dépend de... C'est beaucoup plus les valeurs d'une entreprise, la culture des fondateurs et qui expliquent. Mais du coup, ouais, non, je pose pas pour faire court. Je pose pas du tout les deux.
Mais c'est intéressant parce que tu lis ça à l'humain, c'est-à-dire en fonction de. En fait, c'est la tech comme secteur à pas être opposée à l'impact. L'état d'esprit, peut-être start-up tech, on va lever des centaines de millions et faire plein d'argent, qui est un peu le cliché peut-être, parce qu'effectivement. Les gens ne sont pas forcément caricaturaux comme ça, mais c'est peut-être plus ça qui a. On peut se demander si ce cliché-là peut aller avec de l'impact ou pas. C'est peut-être ça, en fait.
Ouais, je pense que. Alors, mais après, le cliché est totalement réel, hein, pour le coup.
Oui.
C'est clairement pas une légende que certains start-upers se contentent de lever des fonds comme un achievement. Et c'est une stricte réalité. Maintenant, il existe aussi des gens qui voient ces sujets de levée de fonds et de même de communication et de comme des outils et la techno comme un outil au service de, et du coup ça dépend de à quoi tu emploies ton temps et ta mission. Et donc mais je sais de sources sûres que t'as des boîtes très tech qui portent des missions ultra ultra engagées et donc ouais, je dissocie pas du tout les deux, clairement.
Ouais. Génial, merci beaucoup.
Ouais, t'as des fonds Bicorp, enfin t'as des fonds et qui aussi te permettent de déployer l'argent intelligemment.
Trop bien. Je te pose la toute dernière question. Je veux bien une... j'appelle ça l'expression artistique, mais ça peut être une conférence, un livre, une musique, tu vois, une œuvre, quelque chose qui t'inspire et qui fait écho à ta mission.
Une conférence TED que tout le monde doit connaître, mais en tout cas, ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la regarder, qui me parle énormément et qui fait écho en ce moment à beaucoup de choses dans ma vie, qui est la conférence sur... la conférence TED d'un monsieur d'Harvard et qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait une vie réussie ?»
Ok.
Qui pose beaucoup de questions assez fondamentales et qui du coup font écho à l'entrepreneuriat sur les notions de succès, sur le pourquoi on se lève le matin et qui globalement, un petit spoil mais c'est pas grave, parle du fait qu'une vie réussie c'est une vie socialement réussie, c'est une vie entourée de gens avec beaucoup d'amour et de cohésion sur le plan social puisqu'on est des animaux sociaux. Donc voilà, c'est peut-être un petit changement de paradigme. Et puis après... un livre que j'ai adoré, qui est de la vulgarisation philosophique, qui est un livre de Frédéric Lenoir, qui s'appelle Le Miracle Spinoza, qui du coup explique la vie de ce philosophe qui est Baruch Spinoza, que je trouve hyper impressionnant. Très difficile, philosophie difficile à résumer, mais c'est une philosophie de la joie et d'un mec qui à la base avait une vie de patachon, qui a testé un peu tous les côtés sombres de sa personnalité avant d'arriver à une philosophie qui est très tournée vers la joie et que je trouve vraiment fascinante.
Donc, je le mettrai en bas. Une vie de patachon, j'adore. Une vie de joie.
Je suis jeune.
Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.
À bientôt, Mélodie. Merci beaucoup.
Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite! Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite !